prier aussi pour l'église. Voilà, ils sont en pleine croissance. Voilà, n'en tirez point aucun orgueil, parce qu'il y a l'orgueil des chiffres. Hein. Voilà, mais nous les chrétiens, c'est pas ça. Voilà, donc c'est pour glorifier Dieu. Donc il y a quand même plus de 2000 membres. Voilà. Donc il y a un travail qui est battu à Mulhouse, voilà, sur le territoire d'Alsace. Tout. Alors donc c'est un encouragement, voilà, pour nous de l'avoir ce matin. Voilà. Donc il va se présenter. Et puis aussi il chante. Voilà. Voilà, il chante aussi. C'est comme Jésus a chanté des cantiques sur le mont des Oliviers. Et puis, ça ne l'a pas empêché d'aller à la croix. Voilà. Donc, je lui ai demandé à sa commission s'il peut, voilà, donner un aide. Ça veut dire qu'il faut le presser. Amen. Amen. Il faut le presser. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Et qu'il ne fasse pas l'économie. Voilà. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous allons prier pour lui. Voilà, et puis laisser tout l'espace liberté ici. Parce que si c'est la liberté, il y a l'espace qui est là. Pour voir vraiment dit, c'est que Dieu a mis dans son cœur. Nous prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, Seigneur, voici le moment de venir, Seigneur, entendre ta parole. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, redispose-nous encore au Christ. Que Seigneur, tu trouves ce matin du bon terreau. Alors que nous voyons le printemps s'installer, Seigneur, mais aussi le printemps divin s'installe dans mon Dieu, au Christ. Seigneur, chasse les ténèbres de nos cœurs. Chasse les vieux chemins. Oh Seigneur, les raisonnements. Alors que l'évangile est prêché, il y a souvent un raisonnement qui vient là pour qu'on brûle les pistes, Seigneur. Seigneur, comme ce matin tu nous rappelles, que les pensées orgueilleuses, Seigneur, se soient déposées au pied de la croix. Et que nous revêtions, Seigneur, l'humilité. Oh Christ, cette humilité qui te caractérise, Seigneur. Oh Christ. Seigneur, bénis ton serviteur. Renouvelle-le, fortifie-le, Seigneur. Seigneur, pour qu'il soit libre ce matin, Seigneur, de pouvoir dispenser, comme Paul le dit, le mystère de l'Évangile. Accorde-lui la dièse. Marque-le de façon intérieure. En ton nom soit toute la gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur, sa part. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.
Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors, comme Hubert m'a présenté, je m'appelle Benjamin, je suis mulhousien, donc un Français, j'habite en Suisse maintenant, je m'occupe d'un groupe de jeunes là-bas. Avant que je l'oublie, elle m'a répété deux fois de vous le dire, j'ai ma fiancée que vous n'avez jamais vue qui me dit de vous passer le bonjour. Voilà. On est quoi? On est le 8, dans un peu moins de deux mois, on sera mariés.
Amen.
Voilà. Bonjour. Il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est toujours une joie de préparer un mariage. Mais c'est pas pour rien que le Seigneur nous encourage à nous marier qu'une seule fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, pour ma part, je suis arrivé hier avec 2 heures de bouchon, donc je suis arrivé un peu fatigué, mais on a passé un bon temps avec le groupe de jeunes. Ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, et puis Hubert m'a demandé de faire un rapide résumé, c'était la prière. La prière fervente du juste avec grande efficacité. Et on a pris l'exemple de Jésus. Jésus était un homme qui savait prier, c'était un homme qui aimait prier, et c'était un homme qui savait comment prier. Et lorsque je... des fois, j'ai l'impression qu'on voit Dieu comme un Père Noël ou un Papa Gâteau qui nous donne tout ce que nous lui demandons quand nous le voulons. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un homme, Dieu est un Dieu, qui aime lorsqu'on prie sa volonté. Amen. Amen. Et lorsqu'on prie sa volonté, alors il nous exauce. Mais la prière, c'est ce qu'on disait, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Ça demande de la persévérance, ça demande du suivi, ça demande de la fidélité dans la prière, dans les temps personnels. Et on va en parler encore tout à l'heure. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a dit hier. Et puis pour aujourd'hui, je priais aussi. Et d'abord, j'avais un message en tête. J'avais préparé un message qui pour moi, je me suis dit, c'est ça que Seigneur, tu me demandes d'apporter. Et puis ensuite, en prêchant encore hier, tout d'un coup, j'ai eu un autre message à cœur. Mais le message que je voulais prier, que je voulais prêcher d'abord, je me disais, non, il est quand même mieux. Et puis cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, et puis ça n'arrêtait pas, ça travaillait dans ma tête, et puis je sentais que c'était pas le bon message. Donc ce matin, ce que je vais vous prêcher, c'est Jésus calme les tempêtes. Jésus calme les tempêtes. Et c'est le message qui était sur mon cœur et qui reste encore. Donc s'il est sur mon cœur, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des tempêtes. Ça peut être une maladie, ça peut être des difficultés, ça peut être des problèmes financiers ou des problèmes d'emploi. Peut-être que vous voulez travailler et que vous ne trouvez pas d'emploi. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais Jésus, laissez-moi vous dire qu'il calme les tempêtes. Amen. Alors, j'ai été confirmé ce matin. Moi, j'ai été encouragé parce que, si je ne me trompe pas, c'était le premier chant que l'équipe de louange a chanté. C'était « Dieu est bon en tout temps ». Et c'est le message qui va être développé ce matin. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je sais que plusieurs connaissent ce chant. On va le chanter ensemble. C'est « Dieu est capable de faire ». Est-ce que certains le connaissent ici? Alors, je vais juste vite prendre le micro et le piano, puis on va le chanter ensemble. Hein. Alors, si vous le connaissez, chantez avec moi, parce que sinon, je vais me sentir un petit peu seul. Hein. Voilà. Alors, si... Super. Merci. Est-ce que c'est sur piano? Ça va, vous m'entendez comme ça?
Très bien.
Très bien, ok. Alors, on va le prendre ensemble. Pour ceux qui le connaissent, on va le chanter une première fois, ensuite on va le chanter tous ensemble. Le refrain dit « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Garde la foi en Dieu, et certainement cela s'accomplira. Amen. »
Amen.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il fera. On va prendre infiniment, infiniment, abondamment.
Perdre espoir. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des tempêtes comme ça? Où vous perdiez espoir? Je me suis retrouvé dans une tempête, j'ai donné mon témoignage hier, mais je sais que Hubert m'a gentiment encore demandé de le redonner ce matin, donc je vais essayer de l'inclure dans le message. Je regarde d'abord l'heure, d'accord, il est 1h30 à peu près. Vous me donnez combien de temps? Encore comme hier? Pareil?
45 minutes,
d'accord. En tout cas, lorsqu'on se retrouve dans certaines tempêtes, on a besoin de s'accrocher à des choses. Et moi, dans ma tempête, j'étais très malade. Je crois que c'est le chant qui m'a permis de tenir aussi. Et je chantais « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il le fera pour que tu trouves un travail. Il le fera dans ta maladie. Tout ce qu'il dit, il le fera. Il le fera dans tes problèmes de relations. Il le fera dans tout ce que tu vis. Dieu fera la promesse. Dieu l'accomplira certainement. Amen. »
Amen.
Alors Jésus, Jésus calme les tempêtes. On peut se trouver dans des temps d'angoisse, on peut se trouver dans des temps où rien ne va, on a l'impression que tout autour de nous est finalement comme dans une tempête, où les vagues essayent de faire chavirer notre barque. Mais Jésus, rassurez-vous, calme les tempêtes. Amen. Jésus calme les tempêtes tout comme il a calmé, vous connaissez bien cette histoire, dans Luc 8, versets 22 à 25, Jésus a calmé la tempête. On va la lire ensemble, Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est donc votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Est-ce que ça ne fait pas du bien de savoir que notre Jésus a autorité sur le vent et les flots ?
Amen.
Amen. Amen. Il a même autorité sur les bouchons.
Amen.
Par la foi, je n'aurai pas de bouchons quand je rentrerai tout à l'heure.
Amen.
Amen. Mais tout d'abord, avant de développer tout le message, il y a quelque chose pour moi qui est très important, c'est de dire que toutes les tempêtes ne viennent pas de Dieu. Il y a des tempêtes qui ne sont pas voulues par Dieu. Il y a des temps d'épreuves que Dieu permet, mais certaines épreuves que Dieu ne permet pas. Et c'est simplement la conséquence de choses que nous faisons. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à l'école très méchant avec votre prof, ne vous étonnez pas qu'il va être difficile avec vous. C'est une conséquence. Il peut y avoir des conséquences dans notre vie. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous avez une dispute, la conséquence, c'est qu'il y a des tensions. Et là, la responsabilité, c'est votre responsabilité d'apaiser la tempête par la grâce de Dieu et par la force de Dieu, oui. Mais c'est à vous d'aller. C'est à vous d'aller. Toutes les épreuves ne sont pas voulues par Dieu. Mais certaines épreuves, comme je l'ai dit, on ne les cherche pas. Et Dieu dans sa grâce, je dois le dire, et on le verra tout à l'heure parce que les épreuves nous font grandir, permet que nous vivions des tempêtes. Ah, j'entends pas beaucoup de
amen.
Ah, ça me rassure quand même. Je reste avec des gens qui le croient. Mais Dieu permet certaines tempêtes. Et premièrement, mon premier point s'intitule « Passons de l'autre côté ». Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté ». Et je crois que lorsque nous retrouvons dans une tempête, des fois Dieu nous dit, Jésus nous dit « Passe avec moi de l'autre côté ». En quelque sorte, pour nous, nous passons de l'autre côté dans une nouvelle étape, quelque chose de nouveau. Les disciples passèrent de l'autre côté pour se retrouver de l'autre côté de la rive du lac. Mais pour nous, dans notre situation, nous passons de l'autre côté pour nous retrouver dans quelque chose de nouveau. Les disciples lui ont obéi. Les disciples sont passés de l'autre côté. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans la tempête, certainement, et moi j'aurais fait partie de cela, je me serais dit probablement si seulement je n'étais pas monté dans cette barque. Maintenant que je suis en plein milieu de cette tempête, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, la plupart de ces disciples ne savaient pas nager. À l'époque, on ne savait pas bien nager dans ce milieu-là. Donc la tempête, vous savez, c'était pas « bon, ben, je vais tomber dans l'eau et puis je rentrerai à la nage ». C'est « non, je vais tomber dans l'eau et je vais mourir noyé ». Donc il y avait quelque chose d'urgent et de grave qui se présentait devant eux. Et certainement que certains disciples ont dû se dire « mais si seulement je n'étais pas allé dans cette barque, si seulement je n'étais pas passé de l'autre côté ». Et peut-être que vous vous dites dans vos situations, dans vos épreuves, mais si seulement je n'avais pas écouté, si seulement je n'avais pas suivi Jésus. Peut-être que certains ici se retrouvent dans des épreuves telles que vous regrettez votre marche avec Jésus. Je connais des gens qui finalement se disent, mais sans Jésus, sans Dieu, j'étais mieux. Et laissez-moi vous dire que oui, probablement que nous avons peut-être même moins de difficultés lorsque nous ne marchons pas avec Jésus. Parce que lorsque nous marchons avec Jésus, nous sommes ennemis du diable. Et lorsque nous sommes ennemis du diable, nous nous mettons face à un adversaire qui fera tout pour toujours nous éloigner de Dieu. Mais lorsque, pour ma part, peu importe ce que je vis, peu importe les tempêtes, l'essentiel c'est d'être avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, je n'ai rien à craindre. Est-ce que vous connaissez ce chant ? Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
Bien sûr.
Mes lendemains sont assurés. Mais c'est exactement ce que nous devons croire et ce que nous vivons. Si nous croyons, amen.
Amen.
Et certainement, que les disciples se sont dit, mais si seulement je n'étais pas passé au bord, de l'autre côté du lac. Certes, c'est vrai. Si seulement ils n'étaient pas montés dans cette barque, ils n'auraient pas eu cette tempête. Mais ils auraient manqué la présence de Jésus. Parce que Jésus se trouve là où est la tempête. Jésus se trouve là où est la tempête. Ici, ce matin, vous vous dites, mais si seulement je n'avais pas suivi Jésus, si seulement je n'avais pas commencé à marcher et vraiment le suivre, je n'aurais pas vécu toutes ces choses. Certainement, probablement, mais tu aurais manqué la présence de Jésus. Alors ce matin, sois encouragé en sachant que Jésus ne se trouve pas au bord du lac. Il se trouve là où la tempête gronde, là où la tempête rugit. Dans ta tempête, Jésus se trouve. Jésus n'est pas au bord du lac. Jésus est avec ceux qui vivent les tempêtes. Amen. Amen. Jésus est avec ceux qui vivent les tempêtes. Alors, oui, ce n'est pas toujours facile. Et oui, nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Mais dans sa bonté, Dieu nous appelle à vivre de nouvelles étapes. La vie chrétienne, et je le disais hier, la vie chrétienne ne peut jamais être au point mort. Soit on avance, soit on recule. Et pour nous faire avancer, des fois, Dieu nous fait passer par des choses que nous ne comprenons pas, par des choses difficiles, qui finalement nous amènent à dépendre de lui. Toujours plus et toujours davantage. Pour ma part, je vais le redire, alors comme je l'ai dit hier, parce que j'obéis à votre pasteur, je le redirai ce matin. Ce matin, il y a de cela, c'était en mars 2012, je suis tombé gravement malade. Et j'ai commencé à vouloir, j'ai eu des pensées de suicide. Et tout d'abord, on a commencé à croire que j'étais dépressif. Et puis on a commencé à me donner des médicaments. J'ai commencé à avoir toutes sortes de problèmes et je prenais jusqu'à 12 à 13 pilules de médicaments par jour. Alors j'ai l'habitude de dire que ce n'était pas des doliprane. Parce que quand on dit 12, 13 pilules, on dit « bon, moi je prends aussi 5, 6 doliprane ». D'ailleurs, faites attention avec les médicaments, hein, ça reste des médicaments, il faut faire attention. Mais c'était des choses tellement fortes que je connais certaines personnes maintenant qui en prennent, ils prennent seulement une pilule et ils sont KO, ils dorment toute la journée. Et moi, les médecins devaient me donner autant de médicaments parce que simplement je vivais à l'intérieur des tourments. J'avais des crises d'angoisse, j'avais des crises de panique. Et finalement, si je me retrouvais là, je m'arrêtais de respirer. Je faisais de la tétanie, c'est-à-dire que je m'arrêtais de bouger. Je pouvais plus bouger. Et je me retrouvais dans des situations comme ça. Alors pourtant non, je n'étais pas possédé. Je rentrais d'école biblique en Angleterre. Et je sais que bien souvent dans les églises, et en particulier dans les églises évangéliques, on a tendance à faire des raccourcis. Et laissez-moi vous encourager, les amis, si vous connaissez des gens comme ça, ne faites pas de raccourcis. Parce que c'est des raccourcis qui blessent. Moi, on a voulu me chasser maintes et maintes démons dans mon corps. Pourtant, je rentrais d'école biblique et les démons, comme je l'ai dit hier, ça ne s'attrape pas comme le rhume. Lorsqu'on joue avec ça, ça vient. Et moi, je rentrais d'école biblique, je marchais avec Dieu. Mais oui, il y a des maladies psychiques tout comme il y a des maladies physiques. Et je tiens à dire, soyons vigilants. Dieu nous demande d'avoir l'esprit de discernement, ce n'est pas pour rien. L'esprit de discernement, nous en avons besoin. Parce que lorsque nous ne voyons pas quelque chose, c'est Dieu qui nous montre. J'ai prié pour des gens qui avaient des hallucinations et c'était de l'ordre démoniaque. Mais j'ai prié pour la guérison pour des gens qui avaient des hallucinations et c'était de l'ordre maladie. Un démon, cela se chasse. Oula, je vais y arriver. Une maladie, cela se guérit. Amen. C'est pas la même chose. On ne prie pas de la même manière. Mais le Saint-Esprit sait comment nous pousser à prier. Amen. Si vous n'êtes pas sûr, simplement encouragez ces personnes. Encouragez-les. Elles ont plus besoin d'encouragement que de savoir exactement ce qui se passe. Croyez-moi, moi qui suis passé dans ce cas-là, j'avais besoin plus d'encouragement que de savoir ce qui se passe. Oui, je ne comprenais pas, mais je savais que Dieu était avec moi. Dans ma tempête, je savais que Dieu était avec moi. Dans votre tourment, Dieu est avec vous.
Amen.
Amen. Et lorsque des fois Dieu nous appelle à passer de l'autre côté du lac, c'est pour nous amener dans une nouvelle étape de relation avec lui. Alors, je vais venir un petit peu sur mon témoignage durant ce message, mais je vous rassure, il se termine bien puisque je suis là devant vous.
Amen.
Mais avec le recul, je dis tout de suite, je rends gloire à Dieu parce que maintenant, j'ai tellement appris. Ma relation avec Dieu a évolué. Comme je l'ai dit hier, lorsque je dis que Dieu est fidèle, Dieu est fidèle.
Amen.
Dieu ne nous abandonne pas.
Amen.
Et si je n'étais pas passé par ces choses-là, je ne l'aurais pas su comme je le sais maintenant. Je ne l'aurais pas dit comme je le dis maintenant. Et avec ce temps difficile, j'ai pu encourager par la grâce de Dieu, encore une fois, parce que je ne l'ai pas cherché, croyez-moi, je n'ai pas cherché à tomber malade. Mais c'est Dieu qui m'en a sorti, c'est Dieu qui a permis et c'est Dieu qui m'en a sorti. Et maintenant, je sais que je peux être un témoignage pour beaucoup de gens. Est-ce que vous vivez? Rendez toujours gloire à Dieu lorsqu'il accomplit sa parole.
Amen.
Rendez toujours gloire à Dieu, parce que cela vous encouragera et cela montrera la fidélité de Dieu aux autres personnes. Je vous encourage dans vos temps difficiles à écrire ce que vous vivez. Parce que lorsque la parole s'accomplira, vous le relirez, vous vivrez, vous relirez tous vos temps difficiles et vous verrez que Dieu accomplit sa parole.
Amen.
Amen. Dieu peut nous appeler à vivre des temps difficiles pour nous amener plus loin. Pour nous amener plus loin. Et lorsque Jésus calme la tempête pour les disciples, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande, même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. C'est intéressant de lire ça en sachant que juste après, il rencontre un possédé d'une force. De l'autre côté du lac, il rencontre un possédé. Alors, certains livres parlent de deux, certains évangiles parlent de un, on ne sait pas. Mais il rencontre un ou deux possédés d'une force surhumaine. Même les chaînes ne pouvaient pas les tenir. Et juste avant cela, leur foi est encouragée. Ils voient que Jésus a le pouvoir, a l'autorité sur les vents et les flots. Et certainement qu'après avoir vécu cela, lorsqu'ils ont vu les possédés, ils étaient en confiance face aux possédés, parce qu'ils savaient que Jésus avait autorité même sur les vents et les flots.
Amen.
Lorsque nous sommes dans des tempêtes, nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Mais certainement, lorsque Dieu le permet, il le permet pour nous amener plus loin, à un niveau de foi plus grand. Parce que plus tard, nous aurons besoin de plus de foi. Parce que peut-être vous vivrez, Dieu vous appellera à faire des choses qui vous demanderont plus de foi, plus de confiance en Dieu, plus de connaissance de qui il est, plus de connaissance de son amour pour vous. Mais Dieu, parce que nous sommes humains, nous avons besoin, je dois dire, de temps difficiles pour comprendre. Parce que lorsque tout va bien, on se repose sur ce que nous arriverons à faire tout seul. Mais lorsque rien ne va et que nous n'avons aucun pouvoir sur les choses, alors nous nous accrochons à Dieu. C'est triste, mais c'est ce qui se passe avec nous les hommes. Alors Dieu permet ces choses-là, non pas parce qu'il est méchant, mais justement parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il permet des fois des temps de désert, des temps difficiles. Des temps où finalement nous avons l'impression qu'il s'est détourné de nous, qu'il nous a abandonnés. Je donnais hier le verset de Lamentations 3, où Jérémie disait « Tu as brisé mes dents contre des cailloux, tu m'as ôté la paix, je ne connais plus le bonheur. » Et nous pouvons nous retrouver dans des temps où nous ne connaissons plus la paix. On a finalement l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais laissez-moi vous encourager ce matin en vous disant que Dieu ne vous a pas abandonné.
Amen.
Dieu est avec vous.
Amen.
Comme il était avec les disciples dans les temps difficiles, il est avec vous. Et Dieu, dans sa sagesse, permet que nous vivons ces choses-là. Et si je peux vous donner un verset, vous encourager à l'apprendre par cœur si vous ne le connaissez pas encore par cœur. C'est ce verset, lorsque tout va mal, qui me permet, moi, de m'accrocher. C'est Romains 8. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui est-ce qui aime Dieu ici? Alors, toutes choses concourent à votre bien. Et lorsque la Bible dit toutes choses, ça ne veut pas dire tout ce qui est bon. En tout cas, ça ne veut pas dire tout ce qui vous plaît. Toutes choses, ça veut dire comme les temps difficiles, comme les temps faciles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous vivez un échec scolaire et que vous aimez Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cherchez-le, travaillez, persévérez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu et vous vivez un temps de maladie, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous aimez Dieu, vous le servez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous cherchez du travail et vous n'en trouvez pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, persévérez. Vous pouvez vivre un temps d'échec, de relations sentimentales, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'abandonnez pas, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui peut nous sembler bon ou mauvais, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Même si cela peut sembler mauvais à la base. À la base, vous savez, ma maladie, j'ai pas dit super, merci Seigneur, ouais. J'ai pas commencé à chanter avec un grand sourire, non. Même si Paul nous encourage à nous réjouir dans les épreuves. Au début, je n'ai pas fait comme ça. Mais lorsque j'ai réalisé que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, j'ai commencé à me réjouir en me disant merci Seigneur, parce que même si c'est dur, même si je ne comprends pas, je sais que c'est pour mon bien. Parce que je sais que ta vie, parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Et lorsque tu tiens ma vie entre tes mains, je n'ai rien besoin de craindre. Parce que tu es là, tu me diriges près des eaux paisibles, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Amen.
Les temps difficiles que nous vivons, que Dieu permet, ce sont des temps bons pour nous. Ce sont des temps qui plus tard nous amèneront à une dimension supérieure de relation avec Dieu. Parce que oui, nous avons besoin de grandir avec Dieu et j'aimerais vous encourager à ne pas lâcher, ne pas vous reposer sur vos acquis, sur ce que vous connaissez de Dieu, mais cherchez toujours plus loin. Cherchons toujours plus à le connaître, à désirons, recevons cette soif toujours plus de connaître Dieu, de connaître qui il est, de connaître, cette relation de créateur à créature, mais de papa à enfant. Voilà la relation que Dieu veut développer avec nous. Oui, c'est un créateur qui nous a façonnés à son image, mais c'est notre papa qui prend soin de nous. Et c'est cette relation qu'il veut développer. C'est cette relation qu'il veut développer. Ce n'est même plus la relation de maître à serviteur, la Bible dit. C'est la relation de fils à père, de fille à père. Et c'est cette relation-là que Dieu veut avoir avec nous. Alors, lorsque nous vivons des temps difficiles, rassurons-nous, Dieu n'est pas parti. Dieu ne nous a pas abandonnés. Au contraire, Dieu est là dans ce temps difficile et il veut nous apprendre quelque chose. Amen. Il veut développer quelque chose en nous. Pour ma part, et ce que j'ai réalisé, c'est que grâce à l'expérience que j'ai vécue à ma maladie, le Seigneur m'a permis de développer, oui, ma relation avec lui. Il a permis d'approfondir ma relation avec ma fiancée aussi, qui ne m'a pas quitté pendant ce temps-là. Bien que moi, je lui ai demandé de me laisser, parce que ça, c'est les femmes. Allez, un petit témoignage. Je savais que ça la faisait souffrir. Vous savez, j'étais pas facile à vivre. Je dirais même que j'étais dangereux. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais fait de mal aux gens. La seule chose, c'est que je devais compenser en faisant du mal à moi-même. Je ne dormais pas la nuit. Et puis le lendemain matin, mes parents me revoyaient tout bleu, tout gonflé en sang parce que je devais compenser sur moi. Tellement c'était des tourments comme ça. Et je savais que ça faisait souffrir toute ma famille. Vous savez, ils ne dormaient plus, ils avaient peur de moi. Ils n'osaient plus fermer l'œil. Et ma fiancée, je savais que je la faisais souffrir. Et je lui ai dit, écoute, laisse-moi. Alors j'ai été dur avec elle parce que je ne voulais pas la faire souffrir. Je l'aimais. Et pour ne pas la faire souffrir, je lui ai dit, laisse-moi maintenant. Et elle a dit, je te laisserai quand tu seras guéri. Parce qu'elle savait que c'était pour ne pas la faire souffrir. Et elle a dit, je te laisserai. Mais quand tu seras guéri, tu me rediras. Parce qu'elle savait que je l'aimais de tout cœur et que je ne voulais juste pas la faire souffrir. Et elle est restée avec moi tout ce temps-là. Et grâce à ça, ma relation avec elle s'est développée. Et les gars, si vous êtes là et vous cherchez une jeune femme, cherchez pas une jeune femme qui, comment dire, parce que la mienne, elle est super. Mais cherchez une jeune femme qui vous soutiendra dans les temps difficiles, qui sera prête à supporter les choses que vous vivrez, qui sera prête à vous encourager lorsque rien n'ira. Cherchez quelqu'un qui n'ont pas toujours physiquement, il n'y a rien à dire, c'est la top modèle de Lyon ou de Villeurbanne, c'est ça, oui. Toujours un doute. Mais cherchez celle qui vous soutiendra dans les temps difficiles. Parce que avec le temps, on s'embellit toujours plus, mais on change aussi physiquement. Mais le cœur reste là. Le cœur reste là et ne change pas. Donc regardez, comme la Bible me dit, regardez au cœur et pas à l'apparence. Les filles aussi, hein, c'est pareil, hein, les hommes aussi, il y en a des comme ça qui existent. Hein. Cherchez la bonne personne, celle qui encouragera, celle qui fortifiera, celle qui vous poussera toujours plus vers les bras de votre papa, le Seigneur. C'est ça qui est important. Je reviens à la suite de mon message. Voilà moi ce que j'ai appris. Puis tout d'un coup, la Bible nous dit Jésus s'endormit. Et c'est mon deuxième point. Jésus s'endormit. On voit qu'il est dans la barque et finalement il s'endort. Il s'endort. Alors oui, certes, Jésus en tant qu'homme était humain, il avait certainement de la fatigue. Il voulait pas aller de l'autre côté du lac pour cueillir des pâquerettes. Il savait que Dieu l'appelait à faire quelque chose. Il avait pendant trois ans un ministère qui était énorme. Il n'arrêtait pas de prêcher, il n'arrêtait pas de prendre du temps pour les gens. Et physiquement, ça demande de l'énergie. Et certainement qu'il était fatigué. Mais je crois que la parole de Dieu nous enseigne toujours quelque chose pour nous aujourd'hui personnellement. Et je vous encourage à toujours chercher dans la parole de Dieu, dans chaque verset. C'est quelque chose que j'aime vraiment, c'est dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me donner pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me dire pour moi aujourd'hui ?» Oui, il y a le contexte et il ne faut jamais ôter la parole de Dieu du contexte. Il y a des choses pour nous personnellement. Et lorsque je lis que Jésus s'endort dans la barque, je vois deux choses. Je vois deux choses. La première, et c'est important de réaliser, mais c'est que les disciples étaient dans la même barque que Jésus. Eux ne se sont pas endormis. Eux voyaient la tempête, eux voyaient les éclairs venir, eux voyaient les nuages s'assombrir, eux voyaient la pluie tomber, voyaient l'orage gronder. Et ils étaient tellement obnubilés par toutes ces choses-là qu'ils ont oublié Jésus. Ils l'ont laissé s'endormir. Ils l'ont oublié. Et peut-être que vous êtes dans des situations où tout vous focalisez sur vos difficultés, vos problèmes, vos échéances financières, vos soucis de santé, vos soucis de famille, etc., etc. Même votre service pour Dieu, votre service dans l'Église. Vous savez, ce n'est pas que des choses mauvaises qui peuvent nous focaliser. Il y a des choses qui sont bonnes. Le service pour Dieu, c'est très bien, mais ça ne devra jamais être la priorité de notre vie. Jésus doit rester la priorité.
Amen.
Amen. Amen. Mais toutes ces choses-là peuvent nous focaliser. Je parlais hier pour les jeunes. Facebook peut nous focaliser. Twitter, etc. Tout, Internet, la télévision peut nous focaliser, nous prendre du temps. Les relations peuvent nous focaliser, nous prendre du temps. Et finalement, dans notre vie, Jésus est comme endormi. On oublie Jésus. On oublie de garder Jésus éveillé. Et finalement, dans notre vie, on se retrouve comme avec un Jésus endormi. Certes, il est là, il est présent, il ne nous abandonne pas. Toutefois, on n'a plus de relation avec lui. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un d'endormi? On ne construit pas grand-chose. Hein. On ne développe pas vraiment une relation. Hein. Je ne sais pas vous quand vous êtes endormi, mais moi quand je dors. Hein. Vous aurez beau essayer de me parler, ça ne changera rien, je ne répondrai pas, je ronflerai peut-être. Voilà, ou en tout cas je vous dirai n'importe quoi dans mes rêves, ça m'arrive de parler. Mais on ne développe pas de relation, on ne construit pas de choses avec quelqu'un qui est endormi. Et peut-être que vous réalisez ce matin que finalement vous avez été tellement obnubilé comme les disciples parce que vous pouvez vivre par tout ce qui... Et je dois dire que notre société nous envahit de choses qui nous obnubilent. Qui finalement, il y a toutes les informations qu'on reçoit, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les crises. Encore, on entendait il n'y a pas longtemps Charlie Hebdo, toutes ces choses-là qui peuvent nous focaliser. Et finalement, on oublie Jésus. On oublie de réveiller Jésus, on oublie de garder une relation avec lui. Et Jésus est là à présent, mais il est comme endormi dans notre vie. On n'a plus de relation avec lui. Laissez-moi vous encourager à retrouver cette relation. Et puis la deuxième chose que je vois, c'est que, est-ce que ce n'est pas incroyable? Jésus était humain, Jésus était parfaitement homme également, la Bible dit. Et dans cette tempête, alors que personne ne pouvait dormir, qui paniquait, qui voyait la mort en face d'eux, Jésus s'endormit. Quelle paix! C'est pas merveilleux?
Amen. Amen.
Quelle paix! Ça montre que Jésus, on ne sait pas si la Bible ne dit pas si Jésus était au courant que la tempête allait venir. Et entre parenthèses, on ne sait pas, hein, mais s'il a autorité de faire taire les vents et les flots, il a autorité de les faire venir aussi. Hein. C'est la même autorité, donc peut-être c'est lui qui l'a fait venir pour tester ses disciples. Mais il était suffisamment en paix pour s'endormir. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que vous, comme moi, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je souhaite toujours plus, c'est « Seigneur, mais dans mes temps de tempête, j'aimerais être suffisamment en paix pour m'endormir paisiblement. » Ça montre quelle tranquillité il avait, quelle est cette clé-là. Et lorsque j'ai réalisé ça, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, donne-moi la clé pour réaliser cela. » Selon vous, quelle est cette clé? Comment Jésus pouvait s'endormir dans un temps tellement difficile, tellement tragique?
La foi.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu, la foi, la confiance en Dieu. La confiance en son Père était telle que Jésus pouvait s'endormir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il savait que cette barque dans laquelle il était ne chavirait pas au hasard. Elle était entre les mains du Père. Et c'est le Père qui l'amenait là où lui le voulait. Alors lorsque nous sommes et nous savons, lorsque nous le savons et que nous sommes entre les mains du Père, peu importe l'extérieur, peu importe ce qui se passe à nos yeux, Dieu tient notre barque. Dieu tient votre barque et votre vie entre ses mains. Peu importe ce que vous pouvez vivre, si vous aimez Dieu, vous cherchez sincèrement sa volonté. Dieu tient votre barque entre ses mains. Est-ce que ce n'est pas rassurant? Et si Dieu, ce Dieu créateur de toutes choses, celui qui a fait l'univers, celui qui a créé les merveilleuses montagnes de la Suisse, celui qui a créé les Alpes, celui qui a créé les merveilleux lacs, celui qui a créé Lyon aussi, par la force des humains, mais c'est lui qui est l'inspiration, c'est ce Dieu-là qui tient votre vie entre ses mains. Peu importe ce que vous vivrez. Je le répète, peu importe ce que vous vivrez. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, et la Bible dit que c'est ceux qui lui demandent, ceux qui l'aiment, qui seront automatiquement dans la volonté de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas être en dehors de sa volonté. Si vous l'aimez, vous voulez vraiment faire sa volonté, Comme je l'ai dit hier, Dieu n'est pas un Dieu méchant qui vous envoie dans le mur. Il vous amène toujours dans sa volonté. Alors dans ce temps-là, même les tempêtes, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez être suffisamment en paix, comme Jésus, pour vous endormir dans la barque. Parce que c'est le Père qui tient votre barque et qui l'amène là où lui le veut. Amen. Oh, c'est merveilleux. Moi, ça m'encourage. Je me prêche à moi-même. Je me dis amen à moi tout seul aussi. Amen. Mais est-ce que c'est pas merveilleux? Qu'est-ce que j'aimerais toujours plus avoir cela? C'est vrai que lorsque je vis des problèmes, automatiquement, j'essaye de faire avec mes propres forces et tout de suite, ça va mal. Si j'essaye de faire avec mes propres forces, ça va tout de suite mal. Pourquoi? Parce que alors là, je suis plus focalisé sur Jésus, mais je suis focalisé sur mes problèmes. Et après ma maladie, j'ai eu cette phrase qui me venait à cœur, que je me rappelle, j'encourageais les gens avec ça, je dis, mais arrêtez de regarder à vos montagnes de problèmes. Regardez au Dieu qui est au-dessus de vos montagnes. Pour lui, c'est tout petit. Pour lui, c'est rien. Pour lui, vos problèmes ne sont que minuscules. Jésus n'est pas Dieu n'est pas dépassé par vos problèmes. Dieu n'est pas dépassé par ce que vous pouvez vivre. Dieu n'est pas dépassé par vos difficultés. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Amen.
Amen.
C'est merveilleux ça.
Amen.
Alors on peut être en paix. Alors on peut être tranquille. J'aime la parole de Dieu. J'aime chercher ce que la Bible me dit. Et la Bible me dit encore une chose qui est merveilleuse. La Bible me dit que la barque se remplissait d'eau. La barque se remplissait d'eau. Et pour moi, ça montre l'urgence de la situation. Peut-être que vous êtes dans une situation où, oui, la barque se remplit vraiment d'eau. Autrement dit, ce n'est pas simplement le tonnerre qui fait que gronder, qui annonce de mauvaises choses qui vont arriver. Peut-être qu'on vous a annoncé, c'est sûr et certain, vous êtes malade. Vous aviez des doutes, mais maintenant on vous l'a dit. Peut-être que comme les disciples, la barque se remplit d'eau. Autrement dit, leur vie est vraiment en jeu. Ce n'est pas simplement le bruit là. C'est l'eau qui remplit la barque qui fait qu'elle coule petit à petit. Peut-être que vous êtes dans une situation comme ça, où il y a urgence. On vous dit, Dieu, si tu n'interviens pas aujourd'hui, ça sera fini. Dieu, si tu n'interviens pas cette semaine, ce mois-ci, ça sera fini. Dieu, si tu ne me guéris pas, je vais mourir. Dieu, si tu ne m'exauces pas, c'est fini. Laissez-moi vous dire encore une fois que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et peut-être que, attendez, la grande révélation, c'est que Dieu n'arrivera jamais en retard. Ah, c'est rassurant. Hein. Pour quelqu'un qui habite en Suisse, c'est rassurant, hein, vous savez. Hein. Dieu n'arrivera jamais en retard dans l'exaucement. Parce qu'il est en dehors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc il est en dehors. Il n'est pas soumis à nos lois de temps. Lorsque le moment sera voulu, il interviendra. Lorsque le moment sera voulu, Dieu interviendra. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que oui, il y a peut-être urgence. Oui, nous vivons peut-être un temps difficile. Mais lorsque le temps sera voulu, Dieu interviendra. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est fidèle à sa promesse. Lorsqu'il dit qu'il placera des anges à nos côtés de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Est-ce que ce n'est pas ce Dieu-là, créateur de toutes choses, qui nous promet? Si. C'est ce Dieu fidèle. C'est ce Dieu qui nous aime. C'est ce Papa qui prend soin de nous qui nous fait de telles promesses. Et lui ne faillit jamais à sa promesse. Nous pouvons faillir à nos promesses. Mais Dieu ne faillit jamais. Alors nous pouvons être en paix. Alors nous pouvons être rassurés. Imaginez cette scène. Cette scène où tout est sombre. Alors qu'il y avait un beau soleil lorsqu'ils étaient sur le bord du lac, ils arrivent. En plein milieu, et là, tout devient sombre, les nuages arrivent, le bruit gronde, on sent les vents souffler, la barque qui commence à tanguer, les flots qui essayent de faire couler la barque, puis tout d'un coup, la tempête vient, le tourbillon arrive, les eaux commencent à remplir la barque coule. Imaginez cette scène horrible, en sachant que ces gens-là se voyaient mourir, ils voyaient la mort qui les attendait dans l'eau, en disant « bientôt, c'est votre tour ». Ils voyaient tout cela. Imaginez cette scène. Cette scène tragique, et peut-être que vous êtes dans une tempête comme ça, où vous connaissez quelqu'un, où finalement tout, rien ne va, où c'est la tragédie, où la fin qui s'annonce et qui semble être certaine, il n'y a pas d'autre solution, c'est la mort, qu'elle soit spirituelle ou physique, c'est l'échéance ultime, où finalement on ne pourra pas payer ce que nous avons à payer, c'est la maladie finalement qui nous paralysera. Est-ce que vous êtes dans des situations comme ça où peut-être vous pouvez vivre l'eau qui remplit la barque, comme les disciples? Mais à ce moment-là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que je crois qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit souffla à leurs oreilles. Allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Et ce matin, Dieu vous dit, réveille Jésus. Si Jésus est endormi dans ta vie, réveille-le comme les disciples l'ont réveillé.
Amen.
C'est vrai qu'il était là ? Il était dans la barque et à ce moment-là, j'imagine bien les disciples qui se disent « Mais il est là ? » Celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a guéri les malades, celui qui a fait tous ces miracles, celui qui ressuscite les morts, il est avec nous. Et on l'a oublié. On l'a complètement oublié. Mais comment on a fait pour oublier cet homme-là ? Et ils réveillèrent Jésus et ils crièrent à lui, « Maître, maître, nous périssons. Maître, maître, nous périssons. » Est-ce que vous vous retrouvez dans une situation où finalement vous réalisez que Jésus est endormi et vous le réveillez. Et vous dites, « Maître, nous périssons. » Criez à lui. N'hésitez pas à le crier à Dieu. Vous savez, Dieu aime quand on est honnête avec lui. Dans mon temps de maladie, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit que pour moi, je préférais mourir que de vivre. C'était plus facile de mourir que de vivre. Ce n'est pas faire du chantage à Dieu. Avec Dieu, on ne fait pas de chantage. Avec Dieu, on ne fait pas de chantage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, moi, j'ai l'impression qu'on essaye de faire chanter Dieu. « Dieu, si tu me donnes cela, si tu me guéris, alors je te suivrai. » Frères et sœurs, c'est quoi ces phrases ? Est-ce que Dieu ne mérite pas qu'on le suive ? Peu importe ce que nous vivons ? Peu importe si nous recevons ou ne recevons pas ? Peu importe si nous sommes guéris ou pas ? Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on le suive ? Parce que je vous rappelle que c'est ce Dieu-là qui est descendu de son trône, qui s'est fait homme pour mourir pour nos péchés. Imaginez le supplice qu'il a dû vivre. C'est difficile à imaginer. Nous, on voit, vous savez, les clous. Nous, on voit, vous savez, le fouet qu'il a frappé. On voit la lance qui a percé son flanc. Mais imaginez intérieurement la séparation avec son père. Imaginez que finalement, en l'espace de 2 heures, Dieu ait fait subir le châtiment de l'enfer. Imaginez finalement tout le châtiment de l'enfer qui est éternel, Dieu le réduise à 2 heures et vous le multipliez par le nombre de personnes qui devraient se retrouver en enfer sans Dieu, c'est-à-dire nous tous, plus tous les autres. Et puis Dieu le fait vivre à Jésus-Christ. Voilà un petit peu ce qu'il a vécu. Imaginez tout cela. Est-ce que rien que pour cette raison, il ne mérite pas qu'on l'aime et qu'on le serve tout au long de la vie ? C'est ce Dieu-là qui est mort par amour pour nous. Et lorsque je réalise ça, je n'ose même plus dire, « Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne te suis plus. Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne crois plus que tu existes. » Parce que Dieu a fait cela pour nous. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alors je vous encourage, ne faisons pas de chantage avec Dieu. Parce que de toute manière, Dieu ne joue pas au chantage. Dieu ne joue pas au chantage. Comme les États de nos jours qui ne négocient pas avec les terroristes, Dieu ne négocie pas. Dieu sait, on fait sa volonté, oui ou non. On a le choix. Mais soit on rentre dans ce que lui veut, soit on fait ce que nous voulons. C'est pas, je fais ce que tu veux, mais en même temps, je fais un petit peu ce que je veux. Alors là, on va se retrouver à faire un grand écart. Et si vous êtes sportif comme moi, croyez-moi que le grand écart, ça fait très mal. Ça fait très mal, le grand écart. On choisit. Soit on marche avec Dieu, soit on marche avec... Soit on fait ce qu'on veut. Mais laissez-moi vous rappeler que si on marche pas avec Dieu, on marche automatiquement avec le diable. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas les deux. Donc ne faisons pas de chantage avec Dieu. Et je reviens à mon témoignage. Je me suis retrouvé dans ce temps-là et j'ai été honnête avec Dieu. Et je lui ai dit que c'est difficile. Oui, je croyais qu'il allait m'en sortir. J'avais cette ferme assurance. Vous savez, quand la Bible parle de ferme assurance, d'une foi ferme, vraiment accrochée au roc, j'étais assuré que Dieu allait agir. Mais c'était tellement difficile. Et j'arrive au mois de décembre 2012. Où finalement je fais 3 tentatives de suicide en une après-midi. Et Dieu m'a sauvé 3 fois la vie. Et je dois dire qu'il m'a, sans rentrer dans les détails, il y a de jeunes personnes ici, et je n'aime pas parler de ces choses-là quand il y a des enfants, mais Dieu m'a sauvé la vie, clairement. J'ai voulu m'ôter la vie. Et Dieu m'a sauvé 3 fois. Et plusieurs fois encore lorsque je me suis retrouvé en hôpital. Et du coup, j'ai été en hôpital psychiatrique une dernière fois. Et là... Voilà, j'ai fait quelque chose qui m'a amené en isolement. Et pendant 24 heures, j'étais attaché les pieds et les mains à un lit, comme ça. Et parce que j'avais trop d'énergie, je devais tout relâcher. On m'a donné bien sûr des médicaments, des piqûres et tout ce qu'il faut pour se calmer. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et je me suis calmé. Et ensuite, on m'a relâché. J'étais filmé 24 heures sur 24 par une caméra, même la nuit, pour me doucher, pour aller aux toilettes. C'était qu'une seule pièce. Vous imaginez un peu ? Le lit, je me rappelle, j'oublierai jamais, le lit était vissé, c'était un lit en métal vissé au sol pour pas que je fasse de bêtises avec, j'avais pas le droit de lire. Moi qui aime lire, je n'avais pas le droit de lire parce que quelqu'un à côté de moi avait essayé de manger un magazine pour sauter la lit. Je n'avais pas le droit de visite, je n'avais pas le droit de téléphone, donc toute ma famille, personne n'était au courant de ce que je vivais. Puis je me suis retrouvé dans ce temps-là où je me suis mis à parler, à crier une voix à Dieu. Je m'étais dit, mais peut-être, et voilà la pensée, lorsqu'on ne suit plus la pensée de Dieu, je me suis dit tout à la fin, pendant une journée, je me suis dit, peut-être que si je m'éloigne de Dieu, la difficulté s'éloignera aussi. Mais c'est faux, ne réfléchissez pas comme ça. Et puis je me suis retrouvé dans ce temps-là, et j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir pensé ça. Et je me suis repenti, et je lui ai dit, peu importe ce que tu me feras vivre, je m'accrocherai à toi. Peu importe si je reste en vie ou pas. Parce que oui, à cause des médicaments, j'étais souvent entre la vie et la mort. Peu importe si je resterai toujours dans cet état, je m'accrocherai à toi. Parce que tu es bon. Parce que tu m'aimes. Et parce que de toute manière, au paradis, il n'y aura ni maladie, ni cri, ni grincement de dents, la Bible dit. Que ça soit ici ou sur terre, nous serons délivrés de toutes nos difficultés. Amen.
Amen.
Et lorsque j'étais dans ce temps-là, je passe une nuit encore. Et le lendemain matin, je me réveille. Tout était fini. C'est comme si Dieu avait parlé la nuit en disant à Satan, c'est fini maintenant. C'est fini. Tu le laisses. Comme, vous savez, comme Satan avait fait pour Job. Job avait vécu des choses et puis au bout d'un moment, Dieu dit, c'est fini. Cette nuit-là, alors que je dormais, il dit, c'est fini. Et c'était beau parce que je dormais très bien en plus en hôpital. Il dit, c'est fini. Je me réveillais le matin, je n'avais plus rien. Je n'avais plus envie de me tuer, en sachant que c'était des pensées constantes. Je n'avais plus d'hallucinations. Vous savez, je voyais, j'entendais des personnes comme je vous vois aujourd'hui. Je n'avais plus aucune crise d'angoisse, et ça, pour moi, c'était merveilleux. Je pouvais parler librement, parce que la lumière, le bruit, tout me créait des crises. Je pouvais être avec du monde alors que je ne pouvais plus être avec du monde. Je pouvais m'exprimer alors que j'avais du mal à parler. Croyez-moi ou non, dans ce temps de maladie, je bégayais. Mais je bégayais, je mettais 10 minutes pour faire une phrase. Je ne bégayais plus.
Amen. Amen.
Du jour au lendemain, tout était terminé, fini. Depuis, j'ai été complètement guéri. J'ai plus de médicaments, plus rien. En 3 jours, je n'avais plus rien. Amen. Notre Dieu est un Dieu grand.
Amen.
Notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et aujourd'hui, avec le recul, je rencontre, des dizaines de personnes, des dizaines de familles qui vivent des choses comme ça et qui me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a jamais entendu un chrétien témoigner de ces choses-là. Aidez-nous, comment on peut faire? Je sais que le quota de rendez-vous de mon papa a explosé parce que on se rend compte que dans les églises, il y a eu beaucoup trop de non-dits, beaucoup trop de personnes qui n'ont pas osé parler parce qu'on ne comprend pas ça dans les églises. Et aujourd'hui, on réalise l'ampleur de toutes ces choses-là. L'ampleur des gens dépressifs, des gens en burn-out, des gens qui ont des problèmes psychiques et qui n'osaient pas simplement parler et qui ont juste besoin d'être encouragés, de gens qui mettent leur épaule pour qu'ils puissent peut-être pleurer, pour qu'ils puissent peut-être parler, pour qu'ils puissent peut-être être encouragés. Voilà pourquoi Dieu m'a fait passer ces choses-là. Et je crois qu'il réserve encore des choses. Je crois qu'il réserve et qu'il prépare encore des choses. Mais Dieu a dit son dernier mot. Et dans le même cas pour les disciples, Jésus se leva et il parla. Et les vents et les flots s'apaisèrent. Amen. Les nuages se dissipèrent. Le soleil revint, la pluie cessa. Et Dieu dans votre vie agira de la même manière.
Amen.
Dans votre épreuve, de la même manière. Peu importe si c'est demain, peu importe si c'est aujourd'hui, peu importe si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, Dieu agira certainement.
Amen.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
Amen.
Amen. Est-ce que c'est pas glorieux?
Amen.
Est-ce que c'est pas merveilleux? Au lieu de réveiller Jésus, les disciples auraient pu se dire non. Vous savez comment l'orgueil fait, elle se masque. Ils auraient pu se dire, et peut-être que certains se le sont dit, non, non, vous savez, il est fatigué, on va essayer de régler la chose nous-mêmes. On va prendre nos sandales, on va commencer à évacuer l'eau de la barque. On va prendre nos mains, nos gourdes, on va essayer d'évacuer l'eau de la barque. Peut-être que certains se sont dit ça, ou en tout cas, ils auraient pu se le dire. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites, je gère. Dieu, te fatigue pas pour moi. Je vais gérer moi-même. Je vais régler la situation. Je vais faire avec ma force, ça va aller. Et Dieu est là et te dit, hé, Mon ami, déjà, tu auras vraiment beaucoup de mal si par ma grâce tu arrives. Tu vas y arriver à quatre pattes, vraiment fatigué. Repose-toi sur moi. Et puis deuxièmement, moi je peux faire cesser la cause de tous tes problèmes. Peut-être que les disciples auraient pu enlever l'eau de la barque, mais ils n'auraient pas pu faire cesser la tempête. Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons faire.
Amen.
Dieu est Dieu. Dieu a autorité sur la tempête autant qu'il a autorité sur les maladies. Amen.
Amen.
Si vous êtes malade, Dieu a autorité sur les maladies. Si vous êtes dans un problème de chômage, Dieu a autorité sur le chômage.
Amen.
Si vous êtes dans un problème de relation familiale, c'est Dieu qui restaure.
Amen.
Dieu a plus de... Dieu est beaucoup plus puissant que ce que nous pouvons l'être. Et des fois, j'ai l'impression qu'on ne remet pas à la bonne place Dieu et nous. Nous sommes ses créatures, il est le créateur.
Amen.
C'est lui qui a autorité sur toute chose. Et j'ai l'impression qu'on se repose trop sur nos acquis. C'est de l'orgueil, les frères et sœurs. Ça devient de l'orgueil masqué, certainement. Parce que non, nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne voulons pas faire par nos propres forces. Nous voulons juste, peut-être, donner un petit coup de pouce à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de coup de pouce.
Amen.
Dieu n'a pas besoin de coup de pouce. Oui, s'il nous demande de faire quelque chose, alors nous devons agir parce que c'est sous sa volonté. Mais s'il vous dit de ne pas bouger et que vous bougez, c'est alors que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est alors que vous faites par vos propres forces. Si on essaye de régler les problèmes par nos propres forces, on va se retrouver comment ? On va se retrouver fatigué. On va se retrouver désespéré. On va se retrouver avec des pensées telles que « Dieu n'est pas avec moi. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, tu es loin de sa volonté. » Dieu ne t'a pas abandonné, tu essayes de faire par tes propres forces. Et moi, je rencontre beaucoup de gens, des jeunes, mais pas que des jeunes, qui finalement disent « Bon Dieu, tu me suis, on y va. » Alors que c'est Dieu qui devrait dire « Écoute, tu me suis, tu viens derrière moi, je te protège, et puis on y va tranquille. » Et les gens essaient d'y aller alors que Dieu reste là encore. Les gens sont déjà en train de courir, Dieu n'a même pas fait un pas. N'allons pas plus vite que Dieu. N'allons pas plus vite que Dieu, n'essayons pas de mettre, comme je le disais hier, des échéances à Dieu. Si demain tu ne guéris pas, c'est fini. Et les frères et sœurs, Dieu vaut plus que ça. Dieu vaut plus que ça. Dieu on ne forcera jamais la main de Dieu. On ne forcera jamais la main de Dieu. Et bien souvent, on essaye de la forcer, on essaye de la plier dans notre sens. Mais un bras de fer avec Dieu, ça sera toujours lui qui gagne. Hein. Toujours, toujours. Parce que Dieu est bon et qu'il veut notre bien. Et s'il ne vous guérit pas demain, c'est parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que vous ne voyez pas certaines choses que lui voit. C'est même sûr. Vous ne voyez pas tout ce que Dieu voit. Dieu connaît les circonstances, Dieu connaît le futur, Dieu connaît et sonde les pensées, les sentiments du cœur. Tout ça, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais Dieu le sait. Et Dieu vous aime. Et Dieu veut prendre soin de vous. Comme les disciples, comme il a pris soin des disciples. Amen.
Amen.
Quelle heure est-il ? Mais je suis à l'heure, c'est merveilleux, vous savez, moi j'ai tendance à prêcher beaucoup, tendance à chaque fois à déborder, mais là, Hubert, toi tu sais de quoi je parle, mais je surpasse mon papa qui lui dépasse tout le temps, lui il est toujours, aujourd'hui je fais bien.
Hier aussi,
ah ben voilà, je vois des encouragements, merci Seigneur. J'en arrive à ma conclusion, et si vous êtes d'accord après ce message, j'aimerais qu'on puisse passer un petit peu de temps pour prier.
Amen.
Amen. Mais ma conclusion, quelle est-elle ? Alors que Jésus a menacé les vents et les flots, qu'est-ce qu'il dit alors ? Qu'est-ce qu'il dit aux disciples ? Il leur dit, où est votre foi ? Où est votre foi ? Où est votre foi ? Et ce matin, il dit la même chose. Peut-être si l'équipe de louange peut venir, on prendra encore un chant de louange tout à l'heure. Mais Dieu nous dit, où est votre foi ? Dieu vous parle ce matin et vous dit « Où est votre foi ?» Alors qu'il est là avec vous, il vous dit « Où est votre foi ?» Peut-être que votre foi est dans vos capacités. Peut-être que vous vivez des temps difficiles et vous vous reposez sur ce que vous arrivez à faire. Peut-être que vous vivez des temps d'épreuve et vous dites que finalement Dieu est là plus comme un luxe que comme la chose essentielle de votre vie. Et Dieu vous dit « Où est votre foi ?» Où est votre foi pour votre maladie ? Où est votre foi pour votre temps d'épreuve, pour votre tempête personnelle ? Où est votre foi ? Certains, je sais qu'ils vous encouragent, ils vous parlent maintenant en vous disant « Mais réveille Jésus !» Saint-Esprit vous dit « Réveille Jésus dans ta vie !» Il est endormi, tu n'as plus de relation. On parlait de prière hier. Mais la prière, c'est ce qui développe notre relation avec Dieu. La prière, vous avez besoin de prier. Ce n'est pas du luxe, la prière. Alors Dieu vous dit « Réveille, réveille-moi » Saint-Esprit vous dit « Réveille Jésus dans ta vie !» Réveille-le, cherche-le. Prends du temps avec lui. Et alors que tu es dans ce temps difficile, tu verras que ta foi sera affermie. Tu verras que ta foi sera encouragée. Tu verras que ta foi sera fortifiée. Parce que Dieu est un fidèle. Dieu est un Dieu fidèle qui aime que ses enfants le cherchent et lui fassent confiance. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Alors comme moi, dans ce temps difficile, vous pourrez dire, Seigneur, ma foi est en toi. Ma foi est en toi. Et non, peu importe ce qui se passera, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Non, peu importe que tu me guérisses ou que tu m'exauces demain ou dans 10 ans, je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu mérites beaucoup plus que simplement une échéance. Tu mérites beaucoup plus que ce que moi j'aimerais. Non, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient dire cela aujourd'hui? Non, je ne t'abandonnerai pas. Fermons nos yeux un instant, on va prier ensemble. Peut-être si Chano peut commencer à jouer un chant tranquille. Simplement qu'elle commence à jouer tranquillement. On va prier ensemble. Commencez tout d'abord à élever votre voix auprès de Dieu. Commencez à lui dire, Seigneur, si vous réalisez qu'aujourd'hui Jésus était endormi dans votre vie, demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Revenez à lui. Si vous vivez un temps difficile, revenez à lui, confiez-lui. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie d'interdire. Je te prie d'aider, Seigneur, que ces deux fidèles et mon fidèle et prends soin de moi. Merci, Seigneur, parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci, Seigneur, parce que tu ne faillis pas à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et que tu es serviteur, Seigneur, parce que tu es honoré de savoir que tu es avec eux. Merci, Jésus, pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alors qu'on était dans la louange tout à l'heure, j'avais une parole sur une sœur qui a des problèmes à la nuque. Et Dieu te dit, je te guéris. Dieu te dit, je te guéris. Tu verras que la guérison ne sera pas quand tu sortiras, mais que petit à petit, dans la semaine qui va venir, tu seras totalement rétabli. Mais rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, alors qu'on reste vraiment dans ce temps de prière, il y a plusieurs personnes ici qui ont des douleurs au dos. Simplement mettez votre main sur le dos et on va prier ensemble. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, je crois que le Seigneur veut vraiment intervenir à ce niveau-là. Seigneur Jésus, tu vois chaque personne qui a des douleurs au niveau du dos. Nous te prions par la puissance de ton Esprit Saint de guérir maintenant les dos, de rétablir les colonnes vertébrales, d'ôter ces inflammations au niveau du dos, Seigneur, et que les vertèbres, Seigneur, soient remises dans l'ordre que toi tu veux. Seigneur, que les scolioses disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Parce que tu es ce Dieu bon et fidèle. Tu es ce bon Seigneur, tu es ce Dieu compatissant et qui aime guérir, qui se plaît à agir. Merci Seigneur, car maintenant tu agis par ta puissance, par ton autorité, Jésus-Christ. Toi qui as autorité sur les vents et les flots, tu as autorité sur les dos, tu as autorité sur les douleurs. Et que ces douleurs quittent les corps maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Continuons à prier, à chercher la face de Dieu, alors que l'équipe de louange nous introduit dans ce chant. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, alors qu'on va commencer à louer, on reste vraiment dans cette présence. J'avais aussi à cœur de laisser la possibilité à ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, que ça soit pour toutes sortes de choses, que ça soit une épreuve maladive ou une épreuve quelle qu'elle soit. Simplement, si vous voulez la prière, Hubert et moi, on va se tenir là, on prie ceci et on va prier pour vous. On va prier pour vous. On sait que Dieu est fidèle et Dieu répond aux prières. Si vous avez un besoin de prière, que ça soit maladie, que ça soit quelque chose de quelque chose qui vous a rappelé que vous êtes dans une tempête, simplement approchez-vous et on va prier pour vous. Alors qu'on commence à louer.
Alléluia.
Oh.
Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom.
et qui nous aide à passer à une étape supérieure dans notre relation, dans le développement de notre relation avec Dieu. Voilà. C'est l'épreuve qui te permet toujours de passer à une étape supérieure dans ta relation.